Vous êtes formidable. Oui, les auditeurs de Radio Campus Lille, vous êtes des gens formidables. C'est la crise et vous créez des emplois. Vous êtes bien les seuls. Vous créez des emplois avec peu de choses, vous les créez avec l'argent de vos salaires que vous dépensez. Oui, on n'a jamais vu une quelconque entreprise ou un capitaine d'industrie créer un seul emploi depuis le début de l'humanité. Les seuls emplois qui ont été créés l'ont été par l'argent que vous dépensez ou celui que l'État français dépense en votre nom, mais bon, en votre nom, c'était il y a très longtemps. Aucune entreprise ne crée des emplois, les mécènes sont rarissimes. Donc à lire Frédéric Lordon, qu'il explique très bien dans le dernier numéro du Monde diplomatique de ce mois de mars. Si vous ne pouvez l'acheter, faites une recherche sur la grande toile avec les mots « Frédéric Lordon, les entreprises ne créent pas l'emploi » et allez le lire sur le blog du Monde diplomatique. Alors l'actualité de ce mois de mars, ce sont les élections municipales, la situation dans les Balkans, en Ukraine, comme il y a exactement 100 ans. Vous n'avez pas encore reçu votre déclaration d'impôt. Il faut que votre déclaration d'impôt à remplir. Il faut que l'hiver soit doux. L'actualité, ce sont les caissières des supermarchés, ce sont les licenciements à Auchan et ailleurs, là où règne un silence profond, rue de la Recherche à Villeneuve-d'Ascq, c'est tout près de chez vous. L'actualité, c'est la confiscation du pouvoir au profit de quelques-uns très riches. Vous votez pour des municipalités, mais toutes les décisions importantes sont prises dans le silence à la LMCU. Avez-vous entendu un candidat parler du retour de la gestion de l'eau en régie municipale? Il y a des centaines de millions en jeu. Ça devrait vous intéresser. Alors, les élections sénatoriales sont aussi prévues en septembre 2014 pour la moitié des sièges des sénateurs. Et pour cette consultation, vous n'aurez pas droit à la parole. Bon, le 25 mai, ce sera les élections européennes. Pour celle-là, on peut s'abstenir d'aller déposer un bulletin de vote dans l'urne, vu l'utilisation que l'Union européenne en fait. Pour réfléchir à tout ça, on va commencer par de l'humour, la campagne électorale de l'Église de la Très Sainte Consommation à Lille. N'hésitez pas, allez sur le site http://resignez-vous.fr, tout attaché, une excellente vidéo. Ensuite, quelques brèves sur les caissières des grands magasins. Un nouvel orchestre, HK et les sales banques. Elles ne lâcheront rien. Ensuite, Fabien nous parlera de la corruption depuis le Canada. Et on abordera le sujet du vrai pouvoir dans les communes. Il n'est plus dans les communes, il est ailleurs, il est à la LMCU. Donc on reviendra sur ce sujet dont les maires parlent très très peu. Tout d'abord, les élections municipales à Lille.
Approche-toi du paradis céleste, ô fils du capital. Toi qui as lamentablement échoué à faire repartir la croissance. Toi que les Français veulent crucifier. Approche. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Viré ?
Tu seras parachuté dans le Nord.
À Nice ? Mais Strozzi fait déjà du très bon boulot.
Non, pas à Nice, au Nord, non.
À Neuilly ? Mais je ne pourrai jamais faire mieux que la mafia locale.
Mais non, dans le Nord, à Lille.
À Lille ? Non ! Ah non, 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 pas Lille !
À Lille, Maurice ! À l'île de la Réunion ! À l'île de la Tentation ?
À Lille ? Gaffe, ça fait 27 étages, tu sais. Les files d'attente, peu cher. Des milliers, des dizaines de milliers.
Mais ils travaillent jamais là-bas ?
Oui, l'été, ça va. Ils travaillent 2-3 heures pour préparer la banderie. Mais l'hiver, le chômage monte à 70-80% parfois. Et le Nord.
Ici votre commandant de bord, le chômage extérieur est actuellement de 25% au sol. Attention à vos objets de valeur.
Mon père ! Mon père !
C'est naze ici !
Faudrait peut-être penser à mettre un aéroport en plein centre-ville !
Oh ! Un centre de rétention !
Et donc ça ? C'est la grande place.
Non !
Oh, je déconne ! Il y a aussi des riches à Lille. Suivez-moi !
C'est quoi ça ?
Ça, c'est de la tartine au brio. C'est un plat typique du Nord. Une tradition depuis 2000 ans.
Et on la trempe dans la chicorée. Donc c'est très simple. Pour l'emporter, il suffit de mettre un petit peu de ch'timi dans chacun de vos discours, mon père.
Ouais, par exemple, ça pourrait donner les Roms ont qu'à rentrer à leur baraque. À minute.
Les Roms, ils ont qu'à rentrer à leur baraque. À
minute.
S'il vous plaît.
père, c'est une véritable catastrophe ici. Il y a encore, j'ai vu une manifestation avec 32 personnes qui voulaient des augmentations de salaire. Non mais ça va aller jusqu'où? Ils en veulent toujours plus, ils vont bientôt prendre toutes nos ressources, toute notre fortune. Qu'est-ce qu'on va devenir?
Vous voyez le genre de plaintes que j'entends quotidiennement. Entendre ça à Lille en 2014. Consommateur, consommatrice. Je suis Alessandro Di Giuseppe, fils du capital, descendu sur terre pour semer la bonne parole, travaille, obéit, consomme. Et j'ai le plaisir de vous annoncer ma candidature aux élections municipales à Lille, en compagnie de mes amis les puissants. L'église de la très sainte consommation est la plus grande religion au monde, puisqu'elle compte plus de 7 milliards de fidèles qui vénèrent notre Dieu argent et qui, chaque matin, se prosternent vers la bourse de New York. Depuis plusieurs années, mes braves petits boutons fidèles cherchent désespérément le retour de la croissance.
Croissance,
la croissance, seule source de bonheur éternel pour l'humanité tout entière. Malheureusement, les politiques n'ont pas vraiment donné du leur pour le retour à la croissance. Regardez derrière moi, 13 ans sous Martine Aubry, et tout ce que nous avons eu, c'est l'Illénium, ce petit projet, vulgaire supérette d'à peine 56 000 mètres carrés pour les quartiers pauvres. C'est pourquoi, pour le retour à l'emploi, il nous faut voir les choses en grand. Lorsque je serai élu maire de Lille, l'Illénium sera le duty-free de notre nouvel aéroport international. En effet, dès le premier jour de mon mandat, nous raserons le quartier économiquement, donc humainement inutile, de l'île Sud pour y implanter l'aéroport Britney Spears, facilitant les échanges avec les pays riches. Les lignes Lille-Notre-Dame-des-Landes et Lille-Dubaï verront le jour dès début 2015.
Bonjour, moi c'est Jackie. Moi je suis au RSA. Un RSA c'est pas si mal, mais il faut dire que ça se boit très vite. Ça se boit très vite. Et moi personnellement, je voterai pour le candidat qui pourra relancer la croissance. Parce que la croissance, c'est la seule chose qui me permettra de survivre à moi.
Très bonne remarque, Jackie. Et après, on va dire que les pauvres ne sont pas entendus. La meilleure solution pour accroître le PIB de notre ville, c'est encore de déclarer notre indépendance en faisant de l'île une shoppingotée et un paradis fiscal comme Monaco. Pour accroître notre PIB assez vite, nous déclarerons la guerre à nos riches villes voisines comme Lambersart, la Madeleine ou encore Marcq-en-Barœul.
En vérité, je vous le dis, vous n'aurez plus à payer d'impôts, car nous allons inviter toutes les plus grandes banques du monde à s'installer ici, à Lille. Ainsi, tout le monde pourra faire du profit avec le blanchiment d'argent sur le marché des matières premières, des hautes technologies et du service à la personne, tels que les trafics de drogue, les trafics d'organes, les trafics d'armes, et pour finir, la prostitution des enfants, qui, comme chacun sait, est un marché porteur.
J'en ai marre! Je vais à la boulangerie, je croise des pauvres. Aux Galeries Lafayette, il n'y a que ça. J'en ai même vu à l'opéra. Quand est-ce qu'on aura un endroit à nous, les riches?
Non, je ne suis pas fou, juste visionnaire. Les riches ont besoin de se détendre après une dure journée de labeur. Parce que compter son argent, c'est compliqué. C'est pourquoi, en remplacement de la place de Fives, nous aurons un magnifique golf 18 trous.
Qui dit sécurité, dit bouc émissaire. Qui dit bouc émissaire, dit Rome. Et qui dit discrimination envers les Roms, dit élection garantie au poste de maire. Contrairement à la plupart des politiques, nous ne sommes pas pour le démantèlement des camps. Nous sommes pour en bâtir un grand, ici, à la Citadelle. Avec comme conseiller spécial, ce grand humaniste, Vladimir Poutine.
Des camps où chacun pourra travailler pour être libre. Car le travail rend libre, comme l'a dit notre très cher et regretté président. Ils seront amis, les dissidents, les désobéissants, les objecteurs de croissance, les RMistes, les intermittents et autres fonctionnaires. Nous sommes convaincus que cette proposition fera consensus, autant dans le camp de l'extrême droite molle que dans celui de la gauche décomplexée.
C'est bien connu, la culture, ça fait mal à la tête. Et dans ce domaine, j'ai bien envie de continuer le travail qui a été effectué lors de la dernière mandature. En refusant de donner le moindre euro aux artistes lillois, je propose de transformer cette armoire à vieillerie derrière moi en magnifique IKEA. Car l'art, s'il n'est pas marchand, ne sert à rien.
Si vous pensez qu'il faut travailler 7 jours sur 7, de 7 à 77 ans, 77 heures par semaine, pour 7 euros de la journée, si vous pensez qu'il faut enseigner aux petits garçons à l'école le marketing, le tuning, et pour les petites filles, le ménage, le repassage, le shopping, si vous pensez qu'il faut installer 500 000 caméras de surveillance à Lille, Et même si vous ne pensez pas parce que vous dépensez, eh bien, votez l'Église de la Très Sainte Consommation !
Un record de France a été établi ce week-end dans une grande surface de Nantes. En effet, une hôtesse de caisse a réussi à passer 5,6 tonnes de marchandises pour avoir fait 6493 fois le même geste en une journée. Et ce, pour 980 euros par mois. Si vous n'avez aucune chance de voir le perchiste de visu, vous pouvez toujours faire un sourire à l'hôtesse de caisse quand vous passerez dans votre magasin préféré. Bonne journée.
C'est un licenciement à 3 euros. Une caissière s'est faite licencier. Pour 3 euros, les prud'hommes d'Amiens ont examiné le cas de cette jeune étudiante qui travaillait chez Auchan, à Péronne, dans la Somme. Sa mère avait utilisé sa carte de collaborateur et le groupe de la grande distribution s'est montré sur ce coup inflexible, Franck Hanson.
Oui, Adélaïde, qui travaillait chaque samedi dans ce supermarché pour financer ses études, ne pensait pas que cela pourrait aller si loin. Elle assure qu'elle n'a jamais voulu frauder, ni sa mère d'ailleurs, hein, qui a utilisé sa carte de fidélité en passant à la caisse pour son association. Elle aurait eu ainsi droit à 3 euros de réduction. Pour le magasin, l'utilisation de cette carte professionnelle est très stricte et quel que soit le montant, il y a eu faute. Écoutez, maître Virginie Dussault, c'est l'avocate d'Adélaïde.
C'est hallucinant que sa maman a malheureusement, par automatisme ou machinalement, en fait, fait des courses et a passé la carte de fidélité de sa fille. Elle est licenciée pour quelques euros et est licenciée pour faute grave.
Mais aujourd'hui, le groupe Auchan reconnaît que cette affaire est allée trop loin. Le directeur qui avait géré ce dossier a été remplacé et Damien Debruyère, le nouveau patron du supermarché, est prêt à reprendre cette collaboratrice.
C'est une sanction qui est forte et qui est dans tous les cas disproportionnée. On n'est pas dans le respect et les règles des valeurs de l'entreprise. Certes, la jeune fille a reconnu l'erreur qu'elle a faite, mais aujourd'hui, c'est un dossier qui a été mal géré. Nous œuvrons pour rectifier la situation.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous venez d'entendre un extrait de l'émission « Là-bas, si j'y suis », une bonne partie de la bande sonore de la candidature de l'église de la Très Sainte Consommation à Lille et un message et un petit reportage de RTL. Allez, on va passer sur des sujets plus sérieux, par exemple la corruption, mais auparavant... Une chanson, une voix que vous connaissez, mais le nom de l'orchestre, en réalité, c'est HK et les Sales Banques. Donc HK et les Sales Banques, on ne lâchera rien.
Consommateur, consommatrice, il faut pour cela se résigner, parce que nous les riches, on ne lâchera rien. Ma ville atropésienne, jusque dans ton manoir à Londres, notre réalité est la même. Et chez nous, la révolte gronde. Qui sait qui fait rêver les masses grâce à l'artisanat chinois? Ici, on nous assomme de taxes, alors que c'est nous qu'on crée l'emploi. PDG, trader et rentier, à tous les riches du monde entier, votez pour nous et vous verrez, on s'occupera des assistés. Maintenant, fini les vacances, salariés, allez tous debout, faut sacrifier pour la croissance. Un seul mot d'ordre,
résignez-vous. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien.
On vous parlait de tout changer, et comme des cons vous y avez cru. Oligarchie, fais-moi rêver, démocratie c'est révolu. Alors votre bulletin de vote, filez-le donc à nos banquiers. Ils ont le gel et la capote pour vous placer sans trop risquer. C'est bien connu, la vie de l'homme peut se résumer en trois mots: travail, obéis, consomme, et puis ben direct au caveau. Allez français, on s'entretue pour un job de rêve à Carrefour, pour qu'on se fasse un max de thunes. Un seul mot d'ordre,
résignez-vous. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. On lâchera rien.
Et ils ne lâcheront rien à HK, une voix que vous connaissez. Un texte légèrement différent, mais il faut quand même bien sourire de temps en temps. Alors, maintenant, on va parler corruption. Passer un extrait de l'émission Planète Terre, l'émission du Cérium, donc c'est canadien. Une émission hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité internationale, mais c'est quand même fait dans le cadre de l'Université de Montréal, si mes souvenirs sont exacts. Alors, au micro, le journaliste Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, François Méraud, qui est directeur du Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal et du Centre d'excellence sur l'Union européenne. Hein, le Centre d'excellence sur l'Union européenne. Mais enfin bon, vous allez voir, c'est quand même très très intéressant ce qu'il dit. Barbara Thiraud, qui est directrice du Centre canadien d'études allemandes et européennes et professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Donc Denis Saint-Martin, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, un spécialiste de l'administration publique des questions de gouvernance. Et Fabien Desage est titulaire de la chaire d'études de la France contemporaine pour l'année 2013-2014, donc à Montréal, et professeur invité au département de sciences politiques de l'UDEM au Canada. En réalité, il est professeur en sciences politiques à l'Université de Lille 2, et également chercheur au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale à l'Université de Lille 2, le CERAPS. L'émission Planète Terre, un décryptage de l'actualité, on va parler corruption.
Plus d'un an et demi déjà que la commission Charbonneau au Québec nous sert révélation après révélation sur les stratagèmes de corruption dans l'octroi de contrats publics dans l'industrie de la construction au Québec. Or, si l'on prend le Canada dans son ensemble, puisqu'on ne peut pas faire de comparaison entre le Québec et le reste du monde, disons, il n'y a pas de mesure officielle, le pays fait plutôt bonne figure parmi les démocraties occidentales, selon l'ONG Transparency International, dirigé d'ailleurs par la Canadienne Huguette Labelle. Le Canada a un indice de corruption faible, comme la Suisse et la Suède, par exemple. Viennent ensuite les pays moyennement corrompus, comme les États-Unis, la France et l'Allemagne, puis ceux dont le niveau de corruption est dit élevé, comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, quand on se compare, est-ce qu'on peut se consoler? Je pose la question aujourd'hui à deux professeurs de sciences politiques de l'Université de Montréal, Denis Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Et Fabien Desage, bonjour Fabien.
Bonjour.
Donc, rassurez-vous, je ne vous poserai pas la question à savoir si le Québec est la province la plus corrompue au Canada. C'est une émission d'affaires internationales. Mais néanmoins, la Commission européenne, par exemple, vient d'indiquer que la corruption coûterait 180 milliards de dollars par année aux contribuables européens. C'est 1% du PIB de l'Europe. Donc, des histoires de corruption à l'étranger et en Europe, en l'occurrence ici, il y en a, n'est-ce pas, Fabien?
Alors tout à fait, on peut dire que les dernières décennies sont émaillées de grands scandales, de scandales retentissants, d'affaires de corruption retentissantes. Mm-hmm. Il faut faire attention néanmoins en nommant ces scandales. Hein. On connaît tous les scandales liés notamment au gouvernement Berlusconi en Italie. Ouais. On connaît effectivement l'affaire Caracci, hein, qui a connu non pas des rebondissements, mais les juges d'instruction en France viennent de rendre leur rapport, le résultat de leur enquête, qui est une mm-hmm. enquête de 20 ans. Mais ces scandales...
Quel est l'objet de
l'affaire Caracci, en fait, c'est une affaire en deux temps. La première affaire commence au milieu des années 90, lors de l'élection présidentielle, par un financement occulte de la campagne d'un des candidats, à l'époque Édouard Balladur, lié à la vente, à des ventes d'armes. Et on pourrait dire qu'elle connaît un second temps très ressentissant au début des années 2000, puisque le 8 mai 2002 survient un attentat à Karachi, qui tue 13 ingénieurs français de la direction des chantiers, donc de la construction navale, qui fabriquaient ces sous-marins qui étaient vendus au Pakistan. Mm-hmm. Il se trouve que l'enquête lie notamment les deux choses, c'est-à-dire qu'au départ, cet attentat qui avait été attribué à Al-Qaïda, hein, qui était le coupable tout désigné, finalement, les enquêteurs ont montré que peut-être des commissions n'avaient pas été versées et que l'attentat était une mesure de rétorsion, une mesure de rétorsion face à ces commissions qui n'avaient pas été perçues, notamment au Pakistan. Donc on voit qu'il y a ces grandes affaires. Mais peut-être je dirais que ces grandes affaires ne doivent pas occulter la multitude des pratiques. Hein, sans mauvais jeu de mots, la corruption, c'est un mot valise. Et donc dans lequel sont incluses beaucoup de pratiques, hein, des pratiques liées qui peuvent être du favoritisme, qui peuvent être des pots de vin comme on l'imagine, qui peuvent impliquer des secteurs économiques extrêmement variés. Donc une des difficultés probablement d'ailleurs avec ces critères, avec ces indices, c'est qu'ils renvoient à des pratiques extrêmement différentes.
Ce qu'elles ont en commun, parce que Transparency International, qui est l'ONU, qui a mis la corruption à l'agenda en développant des mesures de perception, c'est que leur définition part du abus du pouvoir public à des fins privées. Mm-hmm. Ce qui semble une définition tout à fait facile, mais la question est que chaque société conçoit l'abus très différemment. Et évidemment, donc, ça va référer à des notions de justice, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, la corruption, on le reconnaît, elle est universelle. C'est la règle plutôt que l'exception. Oui. Et on voit bien à travers les mesures de transparency, comme vous disiez, il y a les premiers de classe, il y a les élèves moyens comme la France, les États-Unis ou l'Allemagne. Donc, ce sont des petites différences entre les premiers de classe et les moyens, mais ce sont des petites différences qui comptent énormément quand même. Mm-hmm. Moi, par exemple, on pourrait parler des États-Unis. Bon, tu parlais de l'affaire Karachi. Ça, c'est un type de corruption très propre à la France qui va souvent impliquer des officiels de l'État au plus haut niveau. Mm-hmm. En France, on peut dire que le scandale financier de 2007-2008 est un scandale de corruption. Le mouvement Occupy Wall Street était une dénonciation de la corruption, c'est-à-dire aux États-Unis, on parle de capture des institutions, c'est-à-dire des lobbyistes et des intérêts économiques privés contrôlent les organismes de réglementation de leur secteur de l'économie, comme la Securities and Exchange Commission, qui est en effet, c'était tous des anciens de Wall Street qui sont là, mm-hmm. et on voit maintenant qu'il y a plusieurs poursuites qui ont été prises devant les tribunaux pour des délits d'initiés chez justement des gens au sein de la Securities and Exchange Commission. Donc aux États-Unis, la corruption, ça va être surtout les lobbying hein, qui font la passerelle entre le gouvernement et l'industrie économique privée. Mm-hmm. Et ça, on voit que c'est le paradigme de la corruption aux États-Unis. Donc chaque société a de la corruption, mais ses institutions, son histoire, ses cultures vont la mêler d'une façon différente, si vous voulez.
Mm-hmm. Ben justement, on parle de la Scandinavie, par exemple, mm-hmm. toujours comme l'exemple, l'élève modèle, si on veut, où le taux de corruption serait très faible. Et là, on tombe dans l'Europe méridionale, ensuite là, Espagne, Italie, Grèce, où là, les niveaux de corruption seraient beaucoup plus élevés. Comment expliquer, par exemple, dans le cas scandinave, qu'on ait des taux si faibles?
Alors peut-être déjà aussi, c'est important, j'insiste là-dessus, mais il faut revenir à la manière dont sont construits aussi un petit peu ces indices de corruption. Comment mm-hmm. Transparency International évalue le degré de corruption? Ce sont les milieux d'affaires hein, qui sont sondés et ce sont les milieux d'affaires qui se prononcent sur la corruption politique. Sur la corruption notamment des fonctionnaires et sur la corruption des élus.
C'est leur perception.
C'est leur perception. Donc déjà, effectivement, on est bien dans de la perception. On n'a pas de détection de la corruption par définition.
Ce n'est pas objectif. Ce n'est pas hors de tout doute, neutre, objectif.
Oui, hein. Puis ça vient qualifier des pratiques qui sont secrètes, hein, qui sont mm-hmm. souvent protégées par la discrétion, par le secret. Et surtout, c'est un point important, qui ne tiennent pas compte des entreprises, la plupart du temps, et des acteurs économiques. Hein. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait des corrompus, mais il faut mm-hmm. aussi qu'il y ait des corrupteurs. Ouais. Et en l'occurrence, on demande plutôt aux acteurs économiques de se prononcer sur l'état des corrompus.
Mais ce qui mm-hmm. rend quand même leurs mesures assez solides, c'est que même les sondages auprès des masses, parce que Fabien a tout à fait raison, mm-hmm. les sondages de perception de Transparency sont faits auprès des élites économiques, mm-hmm. leur perception de la corruption dans l'économie, alors que les sondages auprès des masses révèlent des patterns très convergents mm-hmm. à ceux des élites. Donc, il y a quand même une certaine objectivité, mm-hmm. si ouais. vous voulez. Et pourquoi la Suède ouais. est en premier? Certains diraient, d'abord, c'est eux qui ont inventé l'institution de l'ombudsman. Et ça, on sait que c'est un outil de transparence majeur. Donc, la transparence doit faire partie des bonnes recettes, numéro un. Numéro deux, ce sont les sociétés les moins inégales aussi. Hein? Et donc, on sait plus les sociétés sont inégales sur le plan socio-économique et politique, plus elles sont corrompues. Hein? Et on peut dire que la corruption, c'est une taxe illégale qui est imposée par des intérêts économiques organisée sur le reste de la société, parce qu'on voit bien que les sociétés les plus corrompues sont, si on sait justement, qui sont dans des cercles vicieux d'inégalité.
Mm-hmm. J'ajouterais aussi à ça l'importance du pluralisme politique. C'est-à-dire, on se rend compte effectivement aussi que dans des sociétés où, en quelque sorte, il y a une confusion très grande des élites, hein, mm-hmm. des élites politiques, des élites mm-hmm. économiques, les collusions mm-hmm. sont beaucoup plus évidentes. Et aussi, on a une grande difficulté à trouver les tireurs d'alarme, à trouver des acteurs oui. qui auraient intérêt à dénoncer des pratiques. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de corruption sans scandale de corruption. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, finalement, il faut qu'il y ait un scandale et il faut s'intéresser à la manière dont émerge un scandale de corruption. Et souvent, il y a des acteurs, les magistrats en Italie, mm-hmm. hein, les journalistes, médias. Oui, les médias, oui. qui participent et qui font sortir. Et c'est d'ailleurs un des points intéressants, c'est que la plupart des scandales, des grands scandales de corruption dont on parle, n'ont pas été détectés par des instances qui avaient été officiellement construites pour les détecter. Hein, mmh. Ce n'est pas en général les gendarmes ou les autorités de contrôle, mais c'est les acteurs externes.
Mais en même temps, il faut faire attention parce que les États-Unis sont le pays qui sont dotés le plus d'outils de lutte à la corruption les plus sévères au monde. Et pourtant, les États-Unis sont toujours au 20e rang. Donc, ce n'est pas seulement les lois formelles, les règles formelles des gouvernements qui garantissent un gouvernement plus ou moins corrompu, parce que les Scandinaves ont moins de lois pour lutter contre la corruption que les Américains. Et pourtant, ils en ont moins. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que les économistes nous disent toujours, c'est facile la cause de la corruption. Big government. Ce sont des gros gouvernements avec des bureaucrates et des politiciens qui distribuent des enveloppes pour se faire élire. Alors que les pays scandinaves, les plus gros gouvernements du monde industrialisé, les moins corrompus. Donc, encore une fois, au niveau des recettes, on marche sur des œufs.
On peut peut-être aussi ajouter un point intéressant qui est rarement mentionné, c'est sur la différenciation entre ce qui se passe à l'intérieur de nos sociétés et la contribution d'acteurs économiques ou politiques à la corruption ailleurs. Et c'est là peut-être aussi d'ailleurs où on peut remettre en cause la différence. Le Danemark, par exemple, qui est le meilleur élève du classement de Transparency International. Qui est un pays scandinave. Récemment, un rapport de l'OCDE a enjoint le Danemark à être plus transparent sur les pratiques de ses entreprises à l'étranger. Sous-entendu, voilà, on acceptait à l'étranger d'avoir des pratiques pour gagner des marchés au nom de la concurrence internationale qu'on n'acceptait pas chez soi. Je pense que là, le lien notamment aussi avec le Québec ou avec le Canada peut être intéressant.
Tu as un bon point, Fabien, parce que la recette, c'est la transparence. Mais la transparence à tout prix, comme le promouvoit Transparency International, ça, c'est incertain. Parce qu'on sait que la transparence des gouvernements depuis 40 ans est reliée à la baisse de confiance des citoyens dans les gouvernements. C'est-à-dire que c'est la logique de la saucisse. Plus on sait comment elle est faite, moins on en mange. Et les gouvernements sont devenus plus transparents et les citoyens plus méfiant. Donc, la transparence, c'est une arme à double tranchant dans la lutte à la corruption. On sait qu'elle est nécessaire, mais elle peut aussi générer la méfiance, dépendamment de comment les acteurs politiques utilisent cette transparence.
Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment passionnant. Et on continue avec la Commission Charbonneau et toutes les autres aussi à l'étranger. On continue à suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Merci à vous.
On approche de la fin de l'émission. C'est maintenant l'heure des informations méconnues. Qu'avez-vous à nous apprendre cette semaine? Je commence avec vous, Fabien.
Alors, je voulais revenir sur une information qui n'est pas passée inaperçue, mais quand même qui n'a pas été tellement commentée. C'est l'annonce du maire Coderre d'une réflexion autour de l'installation de caméras de vidéosurveillance à Montréal, notamment dans les quartiers centraux qui en sont déjà dotés, suite à des agressions de rue ou aussi des propos homophobes qui ont pu être tenus. Ça a été présenté comme une solution, en tout cas miracle, ou une solution à étudier. Oui. Alors, c'est assez intéressant parce que ça aboutit finalement à mettre Montréal dans la tendance des grandes villes mondiales. Effectivement, on estime qu'il y a 500 000 caméras de surveillance à Londres. Paris vient d'investir plusieurs centaines de millions d'euros pour installer ces caméras de vidéosurveillance. Et ça m'a amené à soulever un petit paradoxe assez intéressant et en même temps édifiant. C'est que précisément, l'ensemble des études dont on dispose aujourd'hui, et notamment des études récentes qui ont été faites par deux chercheurs américains qui ont traité une quarantaine d'études en Angleterre aux États-Unis, montrent que la vidéosurveillance ne réduit pas la criminalité. Elle ne réduit même pas véritablement le taux d'élucidation, puisque on estime à posteriori, alors sur des cas de crimes extrêmement graves. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que ce qui est ciblé là dans la politique de mise en place de caméras, c'est pas la lutte contre les attentats, c'est pas même la lutte contre la criminalité. Je rappellerai au passage que les derniers homicides qui ont été produits dans le quartier ont été produits en l'occurrence dans le cadre d'interventions du SPVM sur des itinérants. Donc on est dans de l'agression verbale. On peut comprendre assez facilement pourquoi les caméras de vidéosurveillance rendront très difficile en fait l'élucidation, parce qu'en l'occurrence on n'aura pas d'enregistrement de ce qui s'est passé. On voit bien que le travail des policiers est très très compliqué de partir à partir d'images de rue pour retracer ou enclencher des procédures. Donc ça donne quelque chose qu'on connaît assez bien en sciences politiques, c'est que parfois en politique publique, on n'est pas une solution, n'est pas la réponse à un problème, mais on a plutôt une solution préexistante. Oui. Ici, les caméras de surveillance, qui va chercher ces problèmes. On voit bien que cette solution, elle est devenue courante, elle vient directement à l'esprit des élus. Parfois aussi parce que c'est plus compliqué d'agir sur les causes, agir sur l'homophobie, agir sur les effets de la consommation d'alcool dans des rues de centre-ville. Ça pose des vraies questions de société.
Comme quoi, la science politique peut être très utile. Merci. Barbara ?
Oui. J'aimerais rejoindre un peu le thème de la Suisse de tout à l'heure dans un certain sens et voir cet amalgame qu'on peut faire entre, ou qu'on fait, entre questions de sécurité et ce qu'on appelle les étrangers.
Ouais.
Et il s'agit pas d'un, c'est un fait d'actualité à très long terme, puisque je vais vous parler de quelque chose qui a commencé en 1998 et qui va durer au moins jusqu'en 2014. Il s'agit d'un procès qui s'est ouvert en mai 2013 à Munich, donc en Allemagne, et qui met en scène 5 personnes accusées de meurtre. C'est 5 personnes qui sont membres d'une cellule terroriste qu'on appelle la NSU, la National Socialist Untergrund, la clandestinité nationale socialiste. Et donc, c'est 5 personnes qui sont accusées de vol, mais surtout de 10 meurtres et d'attentats. 10 meurtres dont une policière a été la victime, mais dont 9 personnes d'origine post-migratoire, principalement d'origine turque, ont été les victimes. Et ce qui est fascinant et choquant dans ce procès qui va durer jusqu'à la fin 2014 au moins, c'est que le procès montre à quel point les autorités policières, les services de renseignement n'avaient rien vu. Donc, on a affaire avec un groupe d'extrême droite, une cellule allemande, et on a cherché partout. Il y avait des indices qui menaient très clairement vers la piste de l'extrême droite. Les victimes parlaient d'extrême droite, mais pour les policiers, on n'a juste rien vu. En partie parce que les indices ne semblaient pas plausibles, ne cadraient pas bien avec l'image qu'on avait des crimes de l'extrême droite. Et donc, le procès met tout ça en lumière. Et maintenant, il y a une commission d'enquête qui a fait tout un rapport, qui essaie de comprendre les raisons, les fondements, et puis de faire des recommandations. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour moi d'un point de vue des sciences sociales à l'Université de Montréal, c'est de voir, pour nous, comment tout le travail de sociologues et d'historiens qui vont voir comment on pouvait passer à côté de quelque chose qui était devant nous, devant les yeux, tellement flagrant, et de comprendre pourquoi, comment on peut recadrer le problème pour voir ce qui s'est passé, comment quelque chose pouvait se passer.
Oui, fascinant et choquant, en effet. Fabien Desage, Barbara Thériault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et quant à vous, mesdames et messieurs, merci également d'avoir été des nôtres. Et je vous laisse cette semaine sur une recommandation de lecture de Denis Saint-Martin sur la corruption aux États-Unis. Ça s'intitule « Affluence and Influence, Economic Inequality and Political Power in America ». C'est de Martin Gillens.
Donc, c'était un extrait de l'émission Planète Terre, une émission canadienne. Alors, une petite chanson maintenant, bah, tiens, en hommage aux caissières, une chanson de Yeti.
Dans une main, je tiens mon dossier, dans l'autre le ticket disant que je suis la dernière arrivée d'une soixantaine de postulants. Si j'avais su que caissière fait partie de ces boulots qui peuvent ouvrir une carrière, je serais peut-être venue plus tôt. Mais un peu d'attente ne me fait pas peur, je suis toujours de bonne humeur, je me dis... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Ça m'amuse quand je suis assise d'observer comment la chaleur dessine sur ma belle chemise de jolies taches de sueur. Je me rafraîchis dans les toilettes, je tire la chasse, ça cause une fleuve qui inonde la cuvette et mes espadrilles neuves. Heureusement, j'ai pris les antidépresseurs. Je suis toujours de bonne humeur. Je me dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Trois heures c'est long comme pleurniche, un bébé de chaque côté. Une femme s'excuse de son caniche, fait pipi sur mon dossier. Vient de sortir Madame 60, c'est donc à moi. Je prends l'allure d'une jeune femme élégante et je me casse la figure. Mais une bonne caissière n'est jamais en pleurs. Je suis toujours de bonne humeur, je me dis. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. La porte s'ouvre de nouveau, on voit le chef tout énervé. Il dit qu'il ferme son bureau, soi-disant pour aller manger. Je prends un café pour 2 euros, mais par l'absence de gobelet, la machine a aussitôt tout dégueulé sur le parquet. Je reste à sec encore une heure. Je suis toujours de bonne humeur. Les chefs le sourient poliment. Je crois savoir ce qu'il a mangé. Un poil de cul lui colle aux dents. Quand il regarde mes papiers et me demande pourquoi je triche, je vois que tout est effacé par le pipi du caniche. Je referai la queue, celle des chômeurs. Je suis
écoutez Radio Campus Lille, vous venez d'entendre une chanson de Yeti, La bonne humeur de la caissière. Donc vous écoutez l'émission BCE, les bons calculs économiques, les vrais pour vous. Alors une petite nouvelle dont on n'a pas beaucoup entendu parler, j'ai vu un entrefilet dans la Voix du Nord et c'est un article qui a été repris par, enfin, que j'ai trouvé sur ATD Carmonde. Alors, Royal Bank of Scotland contre Lille Métropole Communauté Urbaine. Le 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Royal Bank of Scotland, RBS, assigné par l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, Lille Métropole Communauté Urbaine, LMCU. Tiens, ça nous concerne. Alors, on part du début de l'article. Emprunt toxique, les banques une nouvelle fois condamnées. À la fin de l'année 2013, la tentative du gouvernement de faire valider rétroactivement les contrats de prêts illégaux car dépourvus de TEG a été à juste titre sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Il faut se rappeler qu'à l'occasion du démantèlement de Dexia, le gouvernement avait fait reprendre un encours de 10 milliards d'euros de prêts toxiques de cette banque par la société de financement locale SFIL, une structure publique créée spécialement à cet effet. 10 milliards d'euros. Lorsqu'il a constaté que les tribunaux sanctionnaient les banques qui n'avaient pas mentionné de TEG dans leur contrat, le gouvernement a tenté de réduire à néant cette jurisprudence en proposant une loi de validation rétroactive des contrats illégaux afin d'exonérer les banques et renvoyer la prise en charge du surcoût des emprunts toxiques aux acteurs publics locaux. Mais les juges poursuivent leur travail et continuent de casser... De casser les décisions. Heureusement pour nous, 10 milliards d'euros en jeu, une loi rétroactive, ce qui est assez rarissime dans notre système judiciaire. Alors Royal Bank of Scotland, d'après mes souvenirs, elle est très très impliquée dans le scandale de la faillite islandaise. Donc le litige portait sur 3 contrats swap passés avec la Royal Bank of Scotland pour couvrir les risques de taux de 3 contrats de prêt signés respectivement avec Depfa Bank, le comptoir des entrepreneurs, Dexia et le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est près de chez vous. Or, au lieu de protéger LMCU en minorant son exposition au risque de taux, ce doit être précisément l'objet des contrats de couverture. Les swaps ont au contraire accentué le risque et le coût élevé des sommes pour les dénouer et a privé la collectivité de la possibilité de sortir de ces contrats. Donc le TGI, le tribunal de grande instance de Paris, a reconnu que la Royal Bank of Scotland avait manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas à la communauté la valorisation des swaps à la date de conclusion. Donc si vous voulez des informations sur les swaps, sur ces étranges contrats, n'hésitez pas, faites une recherche sur Paul Jorion, connectez-vous sur son site. Entre autres, c'est un économiste et c'est très très bien expliqué. Arrêt cassé. C'est arrivé aussi pour la Société Générale contre la société minière Georges Montagnier, qui voulait se couvrir contre les variations du prix du zinc, si mes souvenirs sont exacts. Alors quand le prix du zinc baissait, elle n'était pas très bien couverte. Et quand le prix du zinc augmentait, c'était la Société Générale qui empochait tous les bénéfices. Donc là aussi, ça a été cassé. C'est valable aussi pour le privé. Alors que faisait la LMCU dans cette galère ? Il y avait quand même 130 millions d'euros de prêts garantis par des crédits swap, c'est-à-dire les crédits qui ont entraîné la faillite financière de 2008, le krach financier de 2008. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, on va continuer. On va continuer de parler de la LMCU, là où est le vrai pouvoir municipal. Donc, on a déjà un article avec une émission de radio d'une heure sur notre site. Il suffit d'aller regarder dans la page BCE et de faire une recherche sur Fabien Desage. Et là, on va vous passer un extrait de Radio PFM. Donc, Radio PFM, c'est une radio libre d'Arras. Donc c'est un média local, associatif, libre et sans publicité, comme Radio Campus Lille. Il émet sur 99,9 MHz, mais on est un peu trop loin pour le capter. Et il y a un site, c'est www.radiopfm.com. Fabien Desage, donc, qui est professeur à l'Université de Lille 2, et actuellement, il enseigne au Canada, sur le vrai pouvoir des communes, le pouvoir transféré à la LMCU.
Par téléphone avec Fabien Desage, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille 2, actuellement à Montréal. On vous appelle, alors pas pour avoir des nouvelles de l'hiver canadien, mais suite à un article paru dans le Monde diplomatique du mois de janvier, un article intitulé « Rendez-vous manqué de la gauche et de la politique locale » que vous avez coécrit avec David Guéranguet, avec qui vous avez aussi écrit le livre « La politique confiscale ». C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est David Guéranguet, effectivement, qui est enseignant-chercheur à l'École des Ponts.
Alors, ça parle des institutions intercommunales, communautés urbaines, communautés de communes. Ce sont des institutions que vous étudiez dans le cadre de votre travail universitaire, travail de recherche. Des institutions qui ont pris de plus en plus d'importance ces 30 dernières années du fait de la décentralisation.
Alors effectivement, c'est un peu la volonté qu'on avait avec David dans le livre d'abord et puis ensuite dans l'article dans le Monde diplomatique, c'était d'éclairer, on va dire, le fonctionnement de ces structures qui sont à la fois des structures qui s'occupent d'à peu près tout en fait aujourd'hui. Hein, il y a pratiquement aucune politique locale d'importance qui échappe à ces structures, qu'on parle d'urbanisme, de logement, de transport, de gestion des déchets, mais aussi de politique maintenant de développement économique, etc. Donc on a vraiment un champ très large. Et on a essayé de creuser, d'essayer de comprendre un peu ce paradoxe apparent, c'était que ces structures s'occupaient de plus en plus de choses. On en trouvait pratiquement partout, puisqu'aujourd'hui il y a quasiment 96% ou 97% du territoire national qui est couvert par des structures intercommunales. Et en même temps, ces structures, elles restent extrêmement mal connues des citoyens. On a des tas d'éléments qui permettent de le montrer, hein, mais parfois même les sondages réalisés par les structures elles-mêmes qui montrent à quel point finalement les citoyens soit s'en mêlent les pinceaux ou soit sont pas du tout au courant de ce que font ces structures, de qui les gouverne. Donc on a voulu éclairer ce paradoxe apparent et montrer finalement que c'était peut-être pas tant un paradoxe que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on avait tendance souvent à être présenté comme un écart, des structures qui se développent et qui, paradoxalement, sont pas très visibles. Nous, on a voulu essayer d'expliquer le contraire, c'est-à-dire de dire que, précisément, ces structures sont peu visibles parce qu'elles se développent. Hein, parce que les élus qui siègent dans ces instances rencontrent trop d'enjeux à s'y entendre, à faire des compromis, à essayer d'y élaborer entre eux des politiques publiques pour exposer ce qu'ils y font aux citoyens. Hein, donc c'est forcément ce paradoxe, il a quelque chose de très choquant démocratiquement, il a quelque chose de très interpellant. Et on a essayé de comprendre un peu les mécanismes qui permettent de comprendre cette situation et de comprendre cette montée en puissance d'institutions publiques avec une espèce de dispense démocratique, hein, des structures qui se développent à l'abri des regards.
Ça pose une question de démocratie, parce que on est dans le cadre de démocratie indirecte. Hein. On vote pour des conseillers municipaux qui, eux, votent pour des délégués communautaires. Bon, même si la loi a un petit peu changé, maintenant, les listes sont obligées de signaler qui seront les délégués communautaires.
Tout à fait. Alors c'est un changement. Donc pour rappeler très rapidement, comme vous l'avez fait, hein, le fonctionnement préalable jusqu'aux élections à venir, le principe était effectivement celui du suffrage indirect. Hein, donc en gros, ce sont les conseillers municipaux qui élisent dans les conseils, une fois élus, les représentants au sein des structures intercommunales avec des règles de proportionnalité, hein, mais pas complètes d'ailleurs. En gros, les communes les plus importantes envoient un peu plus de conseillers, etc. Alors, il va y avoir un changement, mais on pourrait dire que finalement, ce changement, il est même pas homéopathique, en fait. Hein. Il est, avec David, on a tendance à dire que c'est un changement vraiment un faux-semblant, c'est un trompe-l'œil, sur lequel, d'ailleurs, on pourrait revenir, hein, puisqu'en gros, la loi on parle de la loi de 2010, hein, de décembre 2010, a introduit le principe du fléchage. Donc, le principe du fléchage, ça va pas conduire les citoyens à décider qui ils souhaitent désignés dans ces structures, mais en quelque sorte, quand ils vont voter pour leurs conseillers municipaux, dans le même temps, ils vont être informés de ceux qui vont siéger dans les structures intercommunales. Donc on voit bien que c'est un vote, on pourrait dire c'est presque un vote bloqué, hein, on utiliserait ce terme pour parler du Parlement, c'est presque un vote bloqué dans la mesure où les citoyens ne peuvent pas panacher, ils ne peuvent pas raturer l'ordre qui leur est soumis, leur échappe complètement, hein. C'est un ordre qui aura été élaboré par chacune des listes, en fait. Et on peut imaginer que, en plus, la circonscription reste éminemment communale, c'est-à-dire que les citoyens vont voter d'abord pour des conseillers municipaux, les enjeux du scrutin, hein, les enjeux de l'ordre de la liste des conseillers communautaires qu'on va leur proposer, elle aura été complètement associée à ces enjeux municipaux, hein. Donc, il y a quelque chose... Le mot est presque un peu fort, mais il y a quelque chose presque de la tromperie et de l'imposture, en fait, hein, quand on entend notamment, on est assez remonté avec David contre notamment l'Association des communautés urbaines de France, hein, qui présente ce changement comme l'arrivée du suffrage universel direct pour les conseils communautaires. Heureusement que le suffrage universel direct dans nos démocraties ne fonctionne pas comme ça, hein, parce que sinon on pourrait avoir beaucoup de doutes sur ce que c'est le suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, le principe, c'est celui de la souveraineté de l'électeur, et donc c'est celui de pouvoir et des listes qui se présentent, et donc c'est pouvoir décider de qui on va élire. Là, il y a, en l'occurrence, le choix est complètement lié au choix municipal. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, ce changement, il a surtout permis finalement aux gouvernants de communiquer sur le changement, hein, de dire finalement on va vers une nouvelle ère, puisque demain les conseils communautaires seront élus au suffrage universel et ça va régler le problème démocratique. Quand on regarde ça de près, on se rend compte qu'en fait ça va rien régler du tout, hein, ça change pas fondamentalement, même pas du tout, les logiques qui veulent que ce sont des élus dans le cadre municipal qui vont représenter la commune dans les instances intercommunales, mais qui auront très très peu de liens directs finalement avec les électeurs. Il y a des enquêtes, hein, qui vont être lancées là-dessus, il y en a eu sur les précédentes élections municipales, donc on verra bien, mais on peut être très très suspicieux sur le fait que pour combien d'électeurs finalement le choix du conseil communautaire va jouer un rôle, va être décisif, sachant en plus qu'il y a il y aura très peu d'informations, comme c'est le cas à chaque campagne, sur ce qui se joue au niveau intercommunal, sur les ententes qui peuvent s'y faire, etc.
On parle aussi des lieux de décision. Pour avoir assisté à des conseils communautaires, on se rend bien compte que ce ne sont que des chambres d'enregistrement de décisions déjà prises ailleurs, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les citoyens n'y vont pas beaucoup et ils ont peut-être raison, parce que finalement on a tendance à s'y ennuyer fermement, hein, dans les conseils communautaires. On s'y ennuie parce que ne s'y joue pas grand-chose. Effectivement, ce sont des lieux extrêmement consensuels, hein. On a recensé avec David, mais d'autres chercheurs l'ont fait, le nombre de décisions à l'unanimité, c'est quelque chose d'assez édifiant, hein. On est à plus de 90% dans la plupart des enceintes à l'unanimité, hein, donc on parle même pas de majorité. Donc ce sont les conseils communautaires sont des instances France où il se passe pas grand chose, et il se passe pas grand chose parce que la plupart s'est passé en amont, hein, donc parce que les décisions, les discussions éventuellement entre élus, elles se passent dans les lieux clos, hein, les lieux clos très nombreux dans ces structures. Donc ça peut être les bureaux de communauté, mais parfois ça peut être les conférences des maires, hein, ces structures un peu informelles, dans lesquelles finalement se font les arbitrages. Parfois ce sont les réunions des groupes politiques aussi. Et donc voilà, donc ces conseils communautaires, c'est un autre paradoxe, ce sont des lieux dans lesquels la structure met en scène un peu son fonctionnement consensuel, mais où il y a très peu prise pour des discussions, pour des débats et des délibérations, alors même que ça reste l'instance souveraine, hein, du point de vue de la loi. C'est le conseil communautaire qui est l'instance souveraine, in fine, en dernier ressort. Donc c'est voilà, ça contribue un peu à ce paradoxe. Il faut savoir que ce consensus qu'on observe, il a rien d'évident, hein. C'est-à-dire que les instances à huis clos permettent aussi de préparer en amont, on pourrait dire, la grande cérémonie du soir, et son fonctionnement, voilà, relativement rodé et routinier.
Oui, vous avez utilisé le terme consensus, hein. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans la bouche des conseillers communautaires, bonne intelligence aussi. Et puis c'est aussi les conseils communautaires, un lieu où les clivages gauche-droite finalement s'effacent. Alors, quelles conséquences de cette dépolitisation quand même ?
Alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner, un des points marquants du fonctionnement de ces structures, qui nous a intéressé d'ailleurs avec David, hein, l'ouvrage s'appelle La politique confisquée, donc c'est pas pour rien. Un des points qui nous a intéressé, c'était le fonctionnement très atypique de ces structures par rapport à d'autres instances politiques en France, puisqu'effectivement la très très grande majorité, pour pas dire toutes celles qu'on a rencontrées, hein, qu'on a étudiées, fonctionnaient selon des règles qui sont pas des règles majoritaires, donc qui sont pas des règles où il y a une majorité et puis une opposition et puis des alternances, mais se fonctionnait selon un mode de gouvernement où l'ensemble des formations partisanes, représentées par les élus, participaient en quelque sorte à la direction de ces structures. Donc un fonctionnement voilà que les élus appellent consensuel, hein, qu'on peut appeler de compromis permanent aussi, qui était assez intriguant et qu'on cherchait à comprendre. Alors du point de vue des élus, vous l'avez dit, il y a souvent une présentation très élogieuse en fait, hein, de ce consensus. Alors, je dirais ça fait leur affaire, hein, puisque c'est le fonctionnement qu'ils adoptent, donc ils essayent de le présenter comme légitime. Il faut aussi qu'ils rendent des comptes quand ils s'allient dans ces structures avec des formations partisanes complètement opposées, hein, les cas dans lesquels des exécutifs sont composés d'élus communistes et d'élus UMP, en passant par les écologistes, sont très fréquents, hein, sont la norme même dans les grandes structures intercommunales. Donc il faut justifier ça. Il faut justifier ça quand on leur demande, en tout cas. Et une manière de justifier, c'est de dire que, en gros, ça serait pour le meilleur de tout le monde. En gros, le consensus permettrait de faire valoir les intérêts du territoire, de ne pas se chicaner, comme on dirait ici au Québec. Donc voilà, donc il y a une mise en avant très positive. Ce qu'on a essayé de montrer avec David, c'était le revers de la médaille, hein, le revers de ce consensus, dont on se rend compte qu'il a finalement beaucoup d'effets pervers. Hein. Vous avez utilisé le terme aussi de dépolitisation. Une des choses qui nous a intéressé dans le livre et dans l'article pour le Monde diplomatique, c'était de montrer à quel prix se faisait ce consensus, hein, entre élus, et que voilà, il fallait aussi un peu déconstruire, un peu analyser, remettre en cause ce discours lui-même consensuel sur le consensus, hein. C'est un discours voilà unanimiste de célébration qui était d'ailleurs assez paradoxal, puisque finalement les élus, dans un premier temps, dans les années 60, hein, lors des premières réformes, s'opposaient plutôt, en tout cas une partie des élus s'opposait assez fortement aux structures intercommunales, et on se retrouvait dans une situation au début des années 2000 où finalement la plupart des formations partisanes politiques semblaient se mettre d'accord pour dire que le fonctionnement actuel de l'intercommunalité, donc une intercommunalité non démocratique, hein, avec des élus élus très indirectement, désignés indirectement, ce fonctionnement semblait les satisfaire. Donc on a essayé de résoudre un peu, de comprendre un peu cette énigme-là d'une alliance entre élus.
Alors justement, quelles sont vos conclusions ? Comment ça se fait que tout ce beau monde s'entend à merveille apparemment ?
Dans ces structures, alors bon, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il faut regarder, notamment le mode de scrutin, mais pas seulement, c'est que les élus dans ces instances se considèrent d'abord comme des représentations de leur territoire, hein, donc notamment des communes dont ils sont issus. Ce qui fait que, en quelque sorte, les élus s'entendent pour faire la paix hein, dans ces instances, parce qu'ils considèrent que les intérêts communaux qu'ils font valoir, mais aussi parfois leurs intérêts de professionnels de la politique, hein, de faire partie d'un exécutif, d'avoir un mandat de vice-président ou de secrétaire de bureau ou d'avoir une délégation, étaient suffisamment importants pour qu'ils essayent de faire la paix dans ces structures, sachant que ces structures sont de toute façon peu visibles, peu éclairées, et que ça leur coûtait pas grand-chose du point de vue de leurs militants, du point de vue des électeurs même, de s'entendre dans ces structures. Donc ce qu'on observe, c'est que, on pourrait dire, la prééminence du fait communal, hein, le fait que les élus cherchent à garder chacun un droit de veto, un droit de contrôle sur les politiques communautaires qui s'exercent dans leur commune, est une espèce de base d'accord. Hein. C'est la base d'accord et c'est au nom du maintien de cette autonomie dans chaque commune qu'ils s'entendent pour ne pas s'opposer, ne pas fonctionner de manière majoritaire. En quelque sorte, ça serait trop coûteux, de leur point de vue, de risquer d'être dans l'opposition, hein, de ne pas profiter de la répartition des ressources. Hein. Les structures intercommunales sont caractérisées, du coup, par un fonctionnement où on a une répartition très, très égalitaire des ressources entre les différentes communes. On a un fonctionnement gagnant-gagnant, il faut que tout le monde gagne. Donc ça permet en quelque sorte aussi de faire ces accords un peu inattendus.
Voilà, donc c'était Fabien Desage, professeur de sociologie sur l'île 2, hein, qui nous parlait de la LMCU, des calculs des élus. Vous écoutez l'émission BCE, qu'on peut aussi appeler bons calculs électoraux. T'es interviewé par Radio PFM. Maintenant, une chanson, donc une chanson de François Hadji Lazzaro, La caissière s'envole. Hommage aux caissières.
Dès l'ouverture de la caisse, les clients se pressent. Elle a à peine posé ses fesses, que c'est la ruée sans cesse. Sous la lumière crue et forte, on se colle, faut pas que ça traîne. Les haut-parleurs exhortent sans la moindre gêne. Elle, sa main droite, inscrit le prix des produits que l'autre main pousse en rang sur le tapis roulant. Brusquement, la caissière du supermarché, elle décolle, elle bascule dans le rêve et s'envole. Elle, la caissière du supermarché, se pose en face dans un monde très rond aux douces illusions. Jamais le rythme ne baisse, la moindre pause est express. Qu'importe le stress, de toute façon à la maison c'est pareil. Vaisselle et môme à torcher, et son pauvre Raymond inerte, gastéropode usé. Les traits peu à peu se défont au fil des saisons. Les espoirs s'amoncellent au fond de la poubelle. Brusquement, la caissière du supermarché, elle décolle, elle bascule dans le rêve et s'envole. Elle, la caissière du supermarché, se pose en face dans un monde très rond aux douces illusions.
Bon, on attend là.
Oh, excusez-moi, quelle indélicatesse. Tant qu'a dit la bière, combien de caisses?
C'était si bon ce sniff de tendresse. Elle baissait la tête pour que rien n'apparaisse. Même si elle n'avait rien retenu, elle se sentait nettoyée, récurée, toute nue, comme un bébé. Alors elle soupira, se dit, je ne devrais pas. Mais les yeux remplis de joie, elle se réenvola. Brusquement, la caissière du supermarché, elle décolle, elle bascule dans le rêve et s'envole. Elle, la caissière du supermarché, se pose en face dans un monde très rond aux douces illusions. Aux douces illusions.
L'argent, ça fait pas le bonheur.
Enfin, ça aide, hein, quand même.
Parfois, ça aide.
C'est du pognon dont vous êtes malade.
Du pognon ?
Oui. Le pognon. Le pognon. Le pognon. Le pognon.
Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros nigo. Il y en a partout. Ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser.
Comprendre les mécanismes de l'argent, les rouages de cette crise financière pour nous, c'est faire les bons calculs économiques, les BCE en abrégé. C'est le premier mercredi de chaque mois, à midi, avec Benoît Boussemard et nos spécialistes sur Radio Campus Lille, 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. À bientôt!